Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 15 mars 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous qui était quand notre dernier rendez-vous la semaine passée? Déjà une semaine. En tout cas, ça fait du bien le soleil, hein? Ça fond. Ici, en tout cas, ça fond les fleurs, les oiseaux, l'odeur, la joie, l'amour. Arrêtez de dire des niaiseries. Non, mais sérieusement, ça fait du bien. C'est pas la saison que je préfère, le printemps, mais je peux dire que quand cette petite chose blanche hein, qui couvre le sol, quand ça commence à fondre, ça fait du bien. Et on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11 copie enfin cette fonctionnalité très pratique de macOS. Introduite chez Apple en 2022 avec macOS Ventura, la fonctionnalité appareil photo continuité permet de transférer un iPhone en webcam pour n'importe quel Mac récent. Eh bien, on apprend aujourd'hui que 2 ans plus tard, Microsoft va commencer à proposer une fonction similaire sur Windows 11, mais cette fois pour les détenteurs de smartphones Android ou de tablettes. Dans un billet de blog partagé le 29 février, Microsoft annonce en effet commencer à déployer graduellement auprès des membres du programme Windows Insiders, peu importe le canal, la possibilité, je cite, la possibilité d'utiliser la caméra de leur téléphone ou de tablette Android dans n'importe quelle application vidéo sur leur PC Windows 11. Dans le détail, on apprend que cette fonction pourra fonctionner sans fil et qu'elle permettra donc d'exploiter la qualité d'image offerte par les caméras d'un smartphone qui est souvent bien meilleure qu'à peu près n'importe quelle webcam. Et ce, théoriquement, dans toutes les applications vidéo accessible sur Windows 11. Microsoft promet d'ailleurs flexibilité et confort avec cette nouvelle fonction et annonce qu'il sera par exemple possible passer de la caméra frontale à la caméra arrière, de mettre le flux en pause en cas d'interruption ou encore de profiter des effets fournis par le modèle de votre téléphone portable. Quelques prérequis sont quand même d'actualité pour profiter de cette fonction. Outre le fait qu'elle soit pour l'heure réservé aux insiders, eh bien, cette nouveauté n'est possible que sur les appareils mobiles équipés d'Android 9.0 ou plus récents. Il est aussi nécessaire d'y avoir installé la version 1.24.0.12 ou plus récent de l'application liée avec Windows. Notez enfin qu'un petit tour dans les réglages de Windows 11 est à prévoir pour activer l'ensemble. Les utilisateurs concernés devront en effet se rendre dans Paramètres, Bluetooth et appareils, et ensuite appareils mobiles et choisir gérer les appareils, de manière à autoriser le PC à accéder au téléphone Android cible. Le PC recevra alors une mise à jour du Cross Device Experience Host obtenu au travers du Microsoft Store. Cette fonction de OneDrive disparaîtra à la fin du mois de mars. Bien, d'ici la fin du mois, vous ne pourrez plus téléverser des fichiers sur OneDrive à partir d'une URL. Je ne savais même pas que ça existait. Microsoft vient de l'annoncer officiellement dans un billet publié sur l'un de ses blogs développeurs. Lancée en 2021 en preview, cette fonctionnalité expérimentale permettait aux utilisateurs qu'ils souhaitaient de sauvegarder directement sur leur espace de stockage OneDrive un fichier provenant du web, sans avoir à le télécharger au préalable sur leur appareil. Concrètement, cette fonctionnalité avait été imaginée par Microsoft pour simplifier l'utilisation de son application à ses utilisateurs sur smartphone. Ceux-ci n'avaient ainsi qu'à soumettre l'URL d'un fichier issu du web directement à OneDrive pour que la plateforme se charge de le télécharger et de le conserver sur l'espace de stockage de l'utilisateur. Plusieurs facteurs expliquent la mise à mort de cette fonctionnalité, somme toute très pratique. Tout d'abord, celle-ci était visiblement très peu exploitée par les utilisateurs, je dirais même très peu connue. Surtout, Microsoft déplore les coûts élevés pour maintenir cette fonctionnalité en place. Je les cite, nous avons constaté que cette fonctionnalité a une faible utilisation et des coûts de maintenance élevés et qu'elle ne correspond pas à notre vision de OneDrive en tant que service de stockage cloud qui synchronise vos fichiers sur tous vos appareils, a indiqué Patrick Rogers, Product Manager chez Microsoft. Vous ne disposez donc plus que quelques semaines pour profiter de cette fonctionnalité. Microsoft cessera définitivement de la prendre en charge à compter du 29 mars prochain. Au-delà de cette date butoir, vous ne pourrez plus uploader de fichiers sur OneDrive à partir de leur URL. Néanmoins, aucun des fichiers ayant été téléversés par le passé en utilisant cette fonctionnalité ne sera affecté par ces changements, précise Microsoft. Il y a quelques mois, Microsoft levait officiellement le voile sur la nouvelle mouture de OneDrive, la nouvelle version de plateforme de stockage en ligne de Microsoft, dont le déploiement a commencé début février, a inauguré une nouvelle interface plus moderne et intuitive et a introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Parmi celles-ci, Microsoft a mis en place un nouveau système de filtrage rapide. La firme de Redmond a par ailleurs choisi de rationaliser le bouton « Nouveau » de son application en ligne en y regroupant plusieurs fonctionnalités. Apple ne va finalement pas supprimer le compte développeur d'Epic Games. On se souvient de Fortnite. Ces derniers jours, les retournements de situation s'enchaînent du côté de la marque à la pomme. Un nouvel événement vient bouleverser le feuilleton opposant la pomme à Epic Games, le studio à l'origine du jeu Fortnite. Le 6 mars dernier, soit le jour de l'entrée en vigueur du Digital Markets Act, le DMA, Apple a banni le compte développeur d'Epic Games. Selon les nouvelles règle établie par la firme de Cupertino, l'approbation d'Apple est désormais nécessaire pour pouvoir proposer une boutique d'applications alternatives sur les appareils marqués d'une pomme. Face à cette décision jugée déloyale par Epic Games, l'entreprise dirigée par Tim Sweeney n'a manifestement pas mâché ses mots pour exprimer son mécontentement. Le lendemain, l'Union européenne confirmait qu'elle allait étudier la volonté d'Apple de vouloir radier le compte développeur d'Epic Games, lui demandant au passage des explications quant à la conformité de cette décision avec le DMA. Eh bien, le 7 mars dernier, la Commission européenne évaluait également l'éventualité que cette mesure puisse entraver la loi sur les services numériques, DSA, ainsi que la réglementation sur les relations entre plateformes et entreprises. Beaucoup de règlements quand même. Sur X.com, anciennement Twitter, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a d'ailleurs annoncé que la résiliation par Apple du compte développeur d'Epic Games allait être examinée en priorité par les services de l'Union européenne. Il n'aura étonnamment pas fallu patienter bien longtemps avant qu'Apple ne revienne sur sa décision. Et oui, le 8 mars, face à la pression grandissante de la part de l'Union européenne et après diverses conversations engagées avec le studio derrière Fortnite, la société menée par Tim Cook a finalement décidé de réintégrer le compte développeur d'Epic Games. Alors, Fortnite va donc pouvoir faire son grand retour sur iOS et le lancement de l'Epic Games Store en Europe ne sera désormais plus obstrué par les règles mises en place par Apple. Je cite, Apple a notifié à la Commission et à Epic qu'elle céderait et rétablirait notre accès au retour de Fortnite et au lancement de l'Epic Game Store en Europe en vertu de la loi sur les DMA, a déclaré Tim Sweeney sur X.com suite au revirement d'Apple. Après deux journées de bataille acharnée entre Apple et Epic Games et en attendant leur prochain sujet de désaccord, les deux géants ont enfin trouvé un terrain d'entente. De là à penser que l'intervention de l'UE a considérablement influencé le dénouement de cette histoire. Le MacBook Air M3, il surchauffe et peut dépasser les 100 degrés. Apple vient tout juste de lancer la commercialisation du MacBook Air M3, son nouvel Ultrabook. Comme le MacBook Pro avant lui, ce modèle inédit adopte la puce M3 de l'entreprise. Celle-ci est censée offrir un gain substantiel de performance par rapport à la génération précédente d'ordinateurs. Cependant, son intégration n'est apparemment pas sans défaut. En effet, le design même du MacBook Air M3 semble mal pensé pour l'utilisation de la puce M3. Il se pourrait bien que l'ordinateur rencontre quelques problèmes face à l'augmentation de capacité liée au nouveau SoC. Apple continue d'utiliser un design de refroidissement sans ventilateur pour les modèles MacBook Air M3 de 13 et 15 pouces, le but étant de garantir un fonctionnement silencieux des laptops. Malheureusement, cela provoque également un effet pervers en impactant négativement les performances de l'ordinateur et en le faisant monter en température. Le MacBook Air M3 de 15 pouces peut donc devenir très chaud lors d'une utilisation climatisation intensive. Le constat est alarmant. Il serait possible d'atteindre une température de 114 degrés Celsius pour le CPU et de 102,9 degrés pour le GPU. De plus, les températures externes du MacBook Air M3 peuvent atteindre 45 à 46 degrés Celsius. Si ça ne devait pas représenter un risque pour l'utilisateur, son utilisation devient inconfortable lors de charges de travail trop importantes. Bien que des améliorations aient été apportées par Apple, notamment en modifiant le système de refroidissement avec des coussinets thermiques, le problème de chauffe persiste, cela ayant pour effet d'affecter la performance globale du MacBook Air M3 par rapport au MacBook Pro équipé du même SoC. En effet, les tests effectués par le YouTuber Max Tech ont révélé que le MacBook Air M3 souffre de ralentissements significatifs lors de charges de travail soutenues, principalement lors de l'utilisation de logiciels graphiques exigeants. Il est possible d'observer une réduction de 33% des performances par rapport au MacBook Pro M3. Ce n'est pas la première fois qu'un produit Apple monte en température. Le dernier iPhone de la marque avait également eu ce problème par le passé. Il faut espérer que, comme pour le smartphone, le géant de Cupertino réagisse rapidement pour résoudre le problème. Malheureusement, contrairement à l'iPhone 15, cela ne passerait pas par une mise à jour logicielle, mais plutôt par des modifications internes de la machine. Et s'il est possible qu'il faille attendre un modèle révisé de MacBook Air M3 afin de profiter d'un ordinateur n'atteignant pas la centaine de degrés. Google Play Store, télécharger plusieurs applications en même temps, sera bientôt possible. Je ne savais pas que ce n'était pas déjà possible, mais bon. L'un des grands avantages du Play Store de Google, ce sont bien sûr les millions d'applications que le magasin propose aux utilisateurs de smartphones Android. Il est très facile de trouver exactement celles dont on a besoin. Et dans les très rares cas contraires, il suffit d'attendre un peu pour qu'elles soient publiées. Mais aussi fourni soit-il, le Play Store manque cruellement d'une fonctionnalité pourtant basique, effectivement, quand on y pense. La possibilité de télécharger plusieurs applications en même temps. Actuellement, il faut attendre que l'installation d'une application soit terminée avant d'en lancer une autre. Compréhensible à une époque où les connexions mobiles n'étaient pas très rapides et beaucoup moins aujourd'hui avec la 4G, la 5G et le Wi-Fi. Surtout quand on se rappelle que Google a testé cette fonctionnalité en 2019 déjà. Très attendue, elle n'a finalement jamais été déployée à grande échelle et on n'en a plus entendu parler depuis. Bien, dans la version 40.0.13 du Play Store, des drapeaux, des flags spécifiques ont été ajoutés. Il s'agit de fonctionnalités expérimentales qu'il est possible d'activer et sans garantie qu'elles fassent quoi que ce soit. Ici, elles sont fonctionnelles puisque elles ajoutent la possibilité de télécharger des applications en parallèle. On peut notamment le voir sur des captures d'écran que vous pourrez aller voir dans l'article. Google semble avoir limité à 2 le nombre de téléchargements simultanés. Assemble Debug a cependant modifié cette valeur en choisissant 5 et cela a bien été pris en compte. Il est donc possible que la firme augmente la limite à terme. Il y a cependant une autre limitation. Si plusieurs mises à jour d'appli sont en attente, appuyer sur le bouton « Tout mettre à jour » ne les lance pas tant que des applications sont en téléchargement. Impossible de dire si Google va modifier ce comportement, ni même s'il compte cette fois-ci proposer la fonction à tout le monde. Android, l'application téléphone de Google, offre 2 nouveautés très pratiques. Discrètement, l'application téléphone de Google s'enrichit de nouvelles fonctionnalités qui rendent son utilisation encore plus intuitive. Installée par défaut sur les smartphones Google Pixel et disponible sur le Play Store, l'application téléphone du géant américain prend désormais en charge l'affichage des appels WhatsApp ainsi qu'un raccourci pour passer un appel vidéo. La première nouveauté semble permettre à l'application téléphone de Google d'afficher les appels passés depuis WhatsApp aux côtés des appels téléphoniques classiques. Techniquement, l'application supporte cette option depuis quelques années, mais c'est la première fois qu'on voit WhatsApp en profiter. Il faut pour l'instant remplir 2 conditions pour voir les appels apparaître. Bon, utiliser une version de l'application téléphone de Google, je ne vous la nommerai pas, vous allez voir dans l'article, et je pense qu'il y a 50 chiffres là-dedans, ainsi que WhatsApp dans sa version 2.24.6.6, une version plus courte à épeler. L'autre nouveauté de l'application applications de téléphone concerne l'affichage d'un raccourci appel vidéo lorsque vous passez un appel vocal. Cliquer dessus vous renvoie alors directement vers l'application Google Meet, pratique pour basculer rapidement de l'un à l'autre. Là encore, il faudra se montrer patient pour voir apparaître cela sur la version stable de l'application. En rendant l'utilisation de ces applications toujours plus intuitive, eh bien Google marque des points auprès des utilisateurs de ces smartphones, mais aussi de ceux qui ont un téléphone Android qui ne serait pas encore passé sur un appareil Pixel. Le géant américain a parfaitement compris que le suivi et l'expérience logicielle sont tout aussi importants, si ce n'est plus, qu'un téléphone bien conçu. Il y a un jeu vidéo caché dans Instagram et voici comment l'activer. Certains développeurs s'amusent à placer des fonctionnalités ou des jeux cachés dans leurs applications pour créer la surprise chez les utilisateurs. Et parmi les entreprises les plus adeptes de cette pratique, il y a Google qui a inclus des jeux vidéo sur des produits tels que Google Images ou encore Google Chrome. Je ne savais pas. Comme ces produits Google, l'application Instagram inclut aussi un jeu vidéo caché qui pourrait vous sauver de l'ennui si vous vous retrouvez dans une file d'attente, par exemple. Évidemment, comme il s'agit d'un Easter egg, ce jeu n'est pas accessible dans le menu de l'application. Il y a une manipulation précise, presque secrète, à faire pour pouvoir y jouer. Pour commencer, vous devez ouvrir Instagram sur mobile, puis envoyer ou recevoir un message qui n'inclut qu'un emoji, peu importe l'emoji. Puis, il ne vous reste qu'à appuyer un appui sec sur cet emoji pour que l'interface de messagerie se transforme en jeu. Plus précisément, il s'agit d'un mini-jeu similaire à Pong et qui peut être extrêmement addictif malgré sa simplicité. Et la bonne nouvelle, c'est que ce jeu peut être activé même lorsque votre téléphone n'est pas connecté à Internet. On ne sait pas exactement depuis quand cette fonctionnalité était cachée dans l'app Instagram, mais en tout cas, après avoir appris l'existence de celle-ci, eh bien, on a pu obtenir une confirmation d'un représentant du réseau social. Hein? Nous travaillons, je les cite, toujours sur des moyens de rendre Instagram plus amusant lorsque vous vous connectez avec des amis. Et nous avons déployé un jeu caché qui peut être trouvé dans vos messages directs, vos DM. En tout cas, la découverte a surpris de nombreuses personnes. Néanmoins, il est aussi à noter que malgré le fait qu'il s'agit d'une fonctionnalité cachée, un spécialiste en ingénierie inversée avait découvert celle-ci avant même son arrivée sur l'application. Toujours avec Instagram, vous pouvez maintenant modifier vos messages privés après l'envoi. Vous avez sûrement déjà regretté une formulation ou une faute d'orthographe dans un message privé envoyé sur les réseaux sociaux. Si cela vous arrive sur WhatsApp ou Telegram, vous pouvez très bien modifier votre texte, mais votre interlocuteur verra bien que votre message a été corrigé. Jusqu'alors, Instagram ne laissait pas le droit à l'erreur à ses utilisateurs dans leurs conversations privées. Eh bien, Meta annonce que cet état de fait va changer. Vous pourrez bientôt modifier vos messages comme sur WhatsApp, comme sur de nombreux réseaux sociaux et applications de messagerie instantanée. Eh bien, la méthode pour y parvenir est très simple. Vous maintenez votre message ou affiché, ensuite vous choisissez « Modifier », vous effectuez la correction souhaitée et vous enregistrez le changement. Le destinataire verra bien que votre message a été modifié. Attention, il faut impérativement le faire dans les 15 minutes suivant l'envoi. L'entreprise propriétaire de Facebook indique que la fonctionnalité est déjà disponible. Meta annonce également l'arrivée d'une autre option intéressante, celle d'épingler des conversations privées en haut de votre boîte de réception. Pour ce faire, vous devez glisser vers la gauche ou maintenir la discussion et sélectionner « Épingler ». Autre évolution concernant les messages privés sur Instagram, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver les accusés de réception pour toutes vos conversations ou seulement certaines d'entre elles. Ça, c'est bien. Il faut se rendre dans les paramètres de votre compte pour utiliser cette fonctionnalité. Notez que de nouveaux thèmes vous permettent aussi de personnaliser vos discussions privées.
Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile.
Telegram, il est désormais possible de convertir vos comptes personnels en comptes professionnels. Pavel Durov, qui est le fondateur de Telegram, a révélé que les utilisateurs peuvent désormais convertir leurs comptes personnels en comptes professionnels moyennant des frais mensuels. Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs la possibilité d'afficher des informations telles que leur localisation et leur heure d'ouverture, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les propriétaires de petits cafés et de magasins. Je comprends. Il faut noter que les comptes professionnels offrent également d'autres fonctionnalités telles que l'organisation de discussions avec des étiquettes de couleurs, l'utilisation de messages d'absence ou messages d'accueil automatiques, ainsi que des raccourcis pour des réponses rapides. En outre, Durov a précisé sur sa chaîne que Telegram prévoit de lancer davantage de fonctionnalités commerciales ce mois-ci, notamment un moyen d'intégrer les chatbots basés sur l'intelligence artificielle pour le service client. Quel plaisir de se faire servir par un chatbot. Avec le déploiement des chatbots, les comptes Telegram Business pourront intégrer des chatbots pour automatiser le service client. Durov a déclaré que ces chatbots, alimentés par, bien sûr, l'intelligence artificielle, peut amener l'automatisation du service client à un niveau supérieur. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Telegram cherche à rivaliser avec WhatsApp Business, qui a franchi l'année dernière la barre des 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Cependant, une différence majeure est que Telegram facture des frais d'abonnement pour l'utilisation de ses fonctionnalités professionnelles, tandis que WhatsApp génère des revenus en fonction du type et de la fréquence des conversations. WhatsApp, qui appartient à Meta, a introduit l'année dernière des messages clients personnalisés et des flux pour effectuer des transactions de commerce électronique sans quitter l'application. Au cours des deux dernières années, Telegram s'est quant à lui concentré sur la croissance de son activité grâce à des abonnements premium, un portefeuille cryptographique auto-dépositaire et des enchères de noms d'utilisateurs premium. L'application de messagerie, qui compte plus de 800 millions d'utilisateurs à travers le monde, prévoit également de lancer sa plateforme publicitaire ce mois-ci avec un programme de partage des revenus pour les chaînes. Twitch annonce une grosse mise à jour de son application mobile. Dan Clancy, CEO de Twitch, s'est fendu d'un long billet dans le blog pour annoncer une mise à jour exceptionnelle de l'application mobile. Un relooking aussi bien visuel que fonctionnel qui devrait être déployé dans le cours de l'année. De nombreuses annonces ont été faites par le tout nouveau boss de Twitch qui a réaffirmé sa priorité, je cite, « continuer à être le meilleur service de diffusion en direct centré sur la communauté ». Il a également dressé une liste non exhaustive de toutes les améliorations qui vont être apportées au service. Dan Clancy veut mettre le paquet sur la partie mobile qui n'a pas été véritablement repensée depuis 5 ans. Conscient que le visionnage sur mobile est un moyen important pour les spectateurs de rester connectés aux streamers et aux communautés qui leur tiennent à cœur, Twitch va repenser l'application mobile, et je cite, pour vous offrir une expérience de visionnage plus moderne et immersive, en mettant le flux de découverte à la disposition de tous les utilisateurs. Rappelons qu'à l'heure actuelle, ce flux de découverte qui affiche des mises à jour en temps réel en mélangeant les flux des personnes suivies avec des contenus recommandés n'était jusqu'ici qu'expérimental. Plusieurs nouvelles fonctionnalités vont faire leur apparition. Un petit logiciel de montage de clips sera disponible directement dans l'appli afin de pouvoir créer partout, facilement et rapidement, même en déplacement. Un outil de modélisation sera également accessible, mais d'abord déployé sur iOS dans le courant de l'année, a indiqué la compagnie, et on ne sait encore rien sur sa disponibilité sur Android. Le partage des clips sur les autres réseaux sociaux sera facilité avec une option permettant de les exporter directement sur Instagram. Parmi les autres nouveautés, il sera enfin possible de zoomer par pincement sur les photos et de partager des vidéos en mode portrait dans les stories. Clancy a par ailleurs promis d'améliorer Stream Together, actuellement en version bêta, et qui permet un maximum de 6 streamers de se retrouver en direct sur leur propre chaîne. Génial! La configuration va être plus facile et plus intuitive et permettra de trouver spontanément d'autres streamers sur Twitch et de collaborer avec eux. Il sera par ailleurs possible de fusionner des chats et de combiner les audiences quand même. Intéressant. Enfin, le PDG du service de streaming a voulu marquer son engagement en faveur de la sécurité et de la protection des personnes. Une question régulièrement sujette à débat sur Twitch. Dan Clancy a expliqué que de nouvelles règles seraient mises en place, introduisant, et je cite, des définitions plus claires et actualisées du préjudice ainsi que des sanctions plus sévères pour certains types de harcèlement. Amazon modifie sa politique de retour. Il y a une petite mise à jour dans l'article. On va la lire. Dès le 25 avril prochain, Amazon ne vous laissera plus 30 jours de réflexion avant de pouvoir renvoyer un produit électronique que vous avez acheté. Quelques exceptions s'appliquent cependant. Dans un message envoyé mercredi aux vendeurs de son Marketplace, Amazon indique réduire le délai de retour de nombreuses marchandises de 30 jours à 14 jours. Ainsi, de nombreux appareils électroniques comme les PC, les appareils photo ou encore les routeurs devront être retournés sous 2 semaines. Les films Blu-ray, les CD et les jeux vidéo sont également concernés. Interrogé par le journal allemand Der Spiegel, un porte-parole d'Amazon confirme ces nouveaux délais en précisant que la politique de retour et la date de retour continueront d'être clairement indiquées sous le prix du produit. Seuls quelques produits conservent le privilège de 30 jours, les Box TV, les tablettes Amazon Fire et les téléviseurs. Les appareils reconditionnés de la gamme Renewed sont aussi concernés. Amazon met donc fin à un délai considéré jusque-là comme très généreux. Le minimum légal étant de 14 jours, l'entreprise américaine ne fait que se conformer à la législation en vigueur. C'est surtout un moyen pour le géant de l'e-commerce de faire d'importantes économies. En effet, réduire le délai de rétractation, c'est mécaniquement réduire le nombre de retours. Alexander Braher, avocat spécialisé en informatique, fait le point sur ce que cela signifie en pratique. Il affirme que vous pouvez sortir un téléviseur de la boîte, l'essayer et le renvoyer dans ses nouveaux délais en étant remboursé. Vous n'avez même pas besoin d'inclure l'emballage d'origine, à condition que le produit soit retourné intact à Amazon. Si cela n'est pas le cas, l'entreprise n'est pas dans l'obligation de vous rembourser. En revanche, la situation est différente pour les Blu-ray CD et DVD. En effet, dès que vous avez déchiré l'emballage d'un de ces articles, Amazon n'est pas obligé de le reprendre la marchandise, mais peut le faire si elle le souhaite. Pour retourner un article Amazon, rendez-vous dans la rubrique « Retour et commande » lorsque vous êtes connecté à votre compte Amazon. Il vous propose ensuite le remboursement sous forme de bon d'achat en quelques heures ou directement sur votre compte bancaire sous 7 jours. Mais là, il y a une petite mise à jour dans l'article, mise à jour du 13 mars 2024. Amazon a contacté les auteurs de l'article pour préciser que les changements évoqués dans cet article ne concernent pas pour l'instant les produits vendus sur Amazon.fr, mais uniquement ceux vendus sur Amazon Allemagne. Elon Musk menacé par un nouveau procès. La revanche des anciens de Twitter. L'affaire remonte à fin 2022. Alors qu'il rachète Twitter, eh bien, Elon Musk aurait volontairement gardé des sous pour lui, pour 4 dirigeants, dont l'ancien PDG Parag Agrawal, qui a retenu 128 millions de dollars d'indemnités de licenciement dont il se serait servi dans le cadre du paiement des 44 milliards de dollars de la transaction. Monsieur Musk. Les 4 anciens cadres ont décidé de poursuivre l'entrepreneur sur cette base devant le tribunal du Nord de la Californie. Cité par l'agence Bloomberg, les avocats de Parag Agrawal, soulignent ainsi dans le document de 38 pages rédigé dans le cadre de cette plainte, et je cite, « Sous le contrôle de Musk, Twitter est devenu un bailleur de fonds, raidissant les employés, les propriétaires, les vendeurs et d'autres. Musk ne paie pas ses factures, croit que les règles ne s'appliquent pas à lui et utilise sa richesse et son pouvoir pour fouler aux pieds tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Pour l'instant, ni X ni Elon Musk n'ont répondu à ces accusations. Quel qu'il en soit, ces licenciements n'avaient surpris personne à l'époque. La confiance ne régnait clairement pas entre les deux parties dans la mesure où ces anciens dirigeants avaient eux-mêmes intenté un procès dans le but de forcer le milliardaire à racheter l'entreprise alors qu'il essayait de renoncer à cette acquisition. » Il faut également mentionner le fait qu'ils ne sont pas les seuls à se plaindre du non-paiement de primes ou d'indemnités de licenciement par Twitter. Il est d'ailleurs déjà arrivé que les tribunaux donnent raison aux plaignants au cours des derniers mois. Quoi qu'il en soit, cette affaire tombe assez mal pour Elon Musk, qui fait déjà face à de nombreux dossiers judiciaires. Hein? a parlé en fin janvier. Il y avait une décision d'un tribunal américain qui a donné raison à un actionnaire de Tesla qui exigeait l'annulation d'un plan de rémunération de l'homme d'affaires estimé à 56 milliards de dollars. Quand même. Le juge a ainsi demandé aux parties de cette affaire, je cite, « discuter entre elles pour établir une décision finale destinée à mettre en œuvre ce jugement et à mettre un terme à cette affaire au niveau du procès. » Un réseau Wi-Fi et un peu d'astuces suffisent pour voler une Tesla. Ouvrir une Tesla et la démarrer sans l'aide de sa clé légitime est un des objectifs les plus courus au sein de la communauté des chercheurs en sécurité. Talal Haj Bakri et Tommy Misk y sont parvenus avec l'aide d'une attaque homme du milieu, man in the middle, et pas mal d'astuces. Première étape, déployer un réseau Wi-Fi appelé Tesla Guest dans une station de supercharger Tesla. Ce nom est fréquemment utilisé dans les centres de service du constructeur. Et les propriétaires de véhicules de la marque sont familiers de ce réseau sans fil. Le faux réseau peut être créé à partir, bon, là je vais nommer des appareils, mais ne faites pas ça à la maison. À partir d'un Flipper Zero, qui ne va pas améliorer la réputation du petit boîtier. Il va bientôt être interdit au Canada, précisément, pour l'aide qu'il apporte dans le vol des voitures. À la décharge de l'appareil, cela pourrait aussi marcher sur un Raspberry Pi, PI, ou tout simplement sur un téléphone intelligent. Une fois que la victime se connecte au réseau Tesla Guest frauduleux, une page web lui demande de se connecter à son compte avec ses identifiants. Des informations qui s'affichent en direct sur le Flipper Zero, et parmi elles, le mot de passe unique qui permet de contourner le système d'authentification à deux facteurs. Le piège se referme. Armé de ces données, les pirates peuvent pénétrer sans peine dans le compte de l'utilisateur, ce qui leur permet de suivre le véhicule à la trace. Mais surtout, grâce à cet accès, il devient possible de générer une clé virtuelle qui, en retour, permet d'ouvrir une Tesla et de la démarrer pour peu qu'on soit à proximité du véhicule. Le propriétaire est laissé complètement dans le noir. Aucune notification ne lui est envoyée. Pour bien fonctionner, l'attaque qui a porté ses fruits sur une Model 3 nécessite néanmoins que le compte Tesla piraté appartienne au conducteur principal. La voiture doit être déjà liée à une clé virtuelle. Deux conditions qui sont souvent réunies. Alors, les chercheurs expliquent que le constructeur pourrait renforcer la sécurité assez facilement. Il suffirait d'exiger la présence de la clé physique Tesla lors de l'ajout d'une clé virtuelle. L'entreprise a néanmoins répondu que ce comportement, la création d'une clé virtuelle sans l'aide de la clé physique, était un comportement attendu. Tesla ne s'est pas exprimé sur le reste de l'attaque, mais il est plus probable que quelques boulons vont être serrés assez rapidement. Sam Altman réintègre le conseil d'administration d'OpenAI, hein, ChatGPT. Sam Altman, le patron d'OpenAI, a réintégré le conseil d'administration de l'entreprise qu'il a cofondée plus de 4 mois après la crise de gouvernance majeure au sein de l'éditeur de ChatGPT. Sam Altman avait été licencié abruptement mi-novembre par l'ancien conseil d'administration pour manque de transparence, puis réembauché quelques jours plus tard à la suite de la levée de boucliers des cadres et de l'écrasante majorité des employés d'OpenAI. Microsoft, investisseur majeur d'OpenAI, avait soutenu Sam Altman et obtenu un siège d'observateur au conseil d'administration après la révocation des membres critiques du patron. Dans un nouveau communiqué, OpenAI annonce le retour de Sam Altman au conseil d'administration et l'arrivée de 3 nouveaux membres, Sue Desmond Hellman, qui est une ancienne PDG de la fondation Bill et Melinda Gates, Nicole Seligman, une ancienne présidente de Sony, et Fiji Simo, la dirigeante d'Instacart et ancienne directrice de l'application mobile de Facebook. La société a mis en avant l'expérience des 3 nouveaux membres, je cite, dans la direction d'organisation internationale et dans la gestion d'environnements réglementaires complexes, notamment dans les domaines de la technologie. OpenAI ajoute apporter des améliorations à son mode de fonctionnement. Il s'agira notamment d'ajouter de nouvelles lignes directrices en matière de gouvernance d'entreprise, un service d'assistance téléphonique pour les dénonciateurs anonymes et bien d'autres choses encore. En ce qui concerne l'enquête sur le licenciement de Sam Altman en novembre, OpenAI indique que Wilmer Hale, le groupe tiers qui a examiné l'affaire, a mené des dizaines d'entretiens avec d'anciens membres du conseil d'administration de l'entreprise et d'autres personnes. Il a examiné 30 000 documents documents. Selon le groupe, un manque de confiance s'est développé entre les anciens membres du conseil d'administration et Sam Altman. Wilmer Hale ajoute que les anciens membres du conseil d'administration d'OpenAI ont agi dans le cadre de leur large pouvoir discrétionnaire en renvoyant Sam Altman, précisant que sa conduite ne justifiait pas sa révocation. Des panneaux solaires dans les yeux, quand même. En Australie, des scientifiques de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud cherchent à implanter de minuscules panneaux solaires dans les globes oculaires. Pour quoi faire? Eh bien, pour restaurer la vision chez les personnes dont les photorécepteurs sont endommagés. C'est notamment le cas pour les patients atteints de rétinite pigmentaire. Ils perdent lentement la vue au fur et à mesure que les photorécepteurs du centre de l'œil dégénèrent. Des technologies existent déjà avec des implants biomédicaux qui viennent remplacer les photorécepteurs endommagés. On utilise alors des électrodes qui créent une impulsion électrique et permettent de voir un petit point. Mais pour alimenter des capteurs, il faut de l'énergie. On imagine mal l'intégration d'une batterie dans le globe oculaire. Pour régler ce souci, des chercheurs misent donc sur des capteurs photovoltaïques qui assureront la captation de la lumière et permettront également d'auto-alimenter le système. Le problème de ces petits capteurs solaires, c'est qu'ils ne permettent pas à eux seuls de délivrer une tension suffisante pour rétablir la vision. Les chercheurs ont donc décidé d'empiler 3 minuscules cellules solaires pour générer chaque pixel. Cet empilement permet de délivrer une tension suffisante pour stimuler les neurones. L'assemblage a également l'atout de générer des pixels plus petits et donc une résolution plus élevée. Comme il n'est pas facile de réaliser cette opération à partir de cellules en silicium, eh bien les scientifiques ont choisi un matériau qui délivre les mêmes capacités, l'arsénure de gallium. Ce composant est certes bien plus onéreux, mais ses propriétés permettent aux chercheurs d'affiner plus facilement leur réglage. Pour éviter une intervention trop intrusive, les scientifiques imaginent un petit panneau solaire fixé au globe oculaire. Il serait naturellement auto-alimenté. Pour le moment, la technologie n'en est qu'au stade de principe. Les scientifiques sont parvenus à superposer 2 cellules solaires en laboratoire sur une surface d'environ 1 cm carré. Les résultats sont déjà convaincants. Les chercheurs considèrent que l'appareillage final mesurera environ 2 mm carré avec des pixels d'une taille d'environ 50 micromètres. L'expérimentation sur des humains n'est pas pour demain, mais ce n'est pas pour autant de la science-fiction. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'audiophile intégral, avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous aimez, bien le podcast, le balado, que ça vous sert à quelque chose, hein, un peu. Je fais ça sans prétention. Hein. Mon but, c'est toujours de vous offrir de l'information à la mesure où vous n'êtes peut-être pas capable, vous n'avez pas le temps de commencer à naviguer un peu partout pour voir ces actualités qui vous intéressent. Mais là, je vous la lis entre vos deux oreilles et j'espère que vous aimez ça. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!